vous dans cette édition du débrief. Nous allons lancer la revue de presse internationale dans quelques instants. Bonne émission à tous. Mon nom est Alexis Gagnon, merci de syntoniser CILS 107,9 FM. Vous écoutez l'émission Le Débrief. Nous allons débuter cette édition des 4 et 5 juillet avec la revue de presse internationale. Trois nouvelles repérées pour vous dans le portail de Radio France Internationale à l'adresse RFI.fr. États-Unis, près de 500 personnes tuées par la police depuis le début de l'année 2017. Les policiers américains ont tué 492 personnes dans les 6 premiers mois de l'année 2017. Des données similaires aux statistiques des années précédentes, une moyenne de 1000 personnes tuées par an selon l'étude du Washington Post. Le quotidien a mis en place une base de données après les émeutes qui ont suivi la mort de Mike Brown à Ferguson. Voilà 3 ans aux États-Unis. Il n'existe pas d'autre base de données fédérale aux États-Unis actuellement, précise Anne-Marie Capomaccio, l'auteur de cet article dans le portail RFI. Depuis que le Washington Post collecte ses données au niveau national, les chiffres sont stables, en dépit des manifestations contre la violence policière et des promesses de différents États de réformer leur approche des interpellations violentes. Un quart des victimes de violences policières étaient des malades mentaux, dont on a ensuite découvert qu'ils n'étaient pas dangereux. Un quart des personnes tuées sont aussi des hommes noirs, alors qu'ils ne représentent que 6% de la population américaine. Donc voilà pour le premier article repéré pour vous dans RFI concernant la politique américaine. Deuxième article, États-Unis, la mortalité infantile touche 2 fois plus de noirs que de blancs. Le journal de l'Association des médecins américains vient de publier un document qui analyse la mortalité infantile sur 10 ans entre 2005 et 2015 aux États-Unis. Ce dossier montre que les disparités raciales sont énormes. Les décès sont 2 fois plus importants chez les enfants noirs que chez les enfants blancs, rapporte encore une fois la correspondante de RFI à Washington, Anne-Marie Capomaccio. Cet article du journal de l'Association des médecins américains, écrit par des pédiatres, utilise des données du ministère américain de la Santé. Lorsque le ministère a publié ses chiffres en mars dernier, le rapport mettait l'accent sur la légère baisse des décès chez les nourrissons aux États-Unis. L'Association des pédiatres a décidé d'analyser les données en allant dans le détail et le constat est accablant. Donc si vous voulez approfondir cet article sur les disparités dans la mortalité infantile chez les Américains, c'est dans le portail de RFI. On reste encore un petit peu dans le portail RFI.fr, toujours aux États-Unis. Le dur retour des élus dans leur État après le vote sur la santé au Congrès. Les élus américains sont en vacances en cette semaine de fête nationale du 4 juillet, en pleine crise parlementaire sur la réforme d'Obamacare. Ces élus tiennent les traditionnelles rencontres avec leurs électeurs dans leur État respectif. Des réunions qui se passent très mal pour nombre de membres du Congrès qui sont républicains. Ceux-ci s'apprêtent à démanteler la loi sur la santé, aussi appelée Obamacare aux États-Unis. La réforme d'Obamacare est bloquée au Congrès, rappelle RFI, depuis l'élection de Donald Trump, car les républicains, pourtant majoritaires, sont très divisés entre ceux qui souhaitent tout simplement supprimer cette loi et les plus modérés qui tiennent à ce que leurs électeurs conservent une assurance sociale. L'analyse budgétaire estime que le texte en préparation au Sénat priverait 22 millions d'Américains de couverture de santé. Mais voter une loi à Washington est une chose, rencontrer les électeurs dans les circonscriptions en est une autre. Et toujours aux États-Unis, 11 États sont au bord de la faillite, c'est rapporté par le journaliste Philippe Coste dans le portail Mediapart. Faute d'avoir voté un budget à temps, 11 États américains dont l'Illinois, le New Jersey ou encore le Maine ont fermé leurs services publics depuis le 1er juillet. Le refus du compromis et la crainte, dans une ambiance politique nationale incandescente, d'avoir à répondre de leur choix devant des électeurs enragés, républicains et démocrates, aboutissent à des blocages irrémédiables. C'est un désastre bien américain, rapporte le journaliste de Mediapart dans cet article, parfaitement évitable et grotesque, un psychodrame qui, encore une fois, ramène la première puissance économique occidentale au rang d'un pays en développement géré en dépit du bon sens. Et cette fois, Donald Trump n'y est pas pour grand-chose. L'année fiscale a commencé le 1er juillet, rappelle cet article. À cette occasion, les habitants de 11 États, parmi lesquels figurent l'Illinois et le New Jersey, ont découvert que leurs élus n'étaient pas parvenus à s'entendre s'entendre sur un budget avant la date limite imposée par la loi. Résultat, faute de crédits disponibles, les services publics ferment en masse. Dans le New Jersey, 50 parcs d'État ont soudainement fermé, parmi lesquels toutes les plages publiques à la veille du week-end de la fête nationale de l'indépendance. Les gardes forestiers ont passé 24 heures à évacuer préventivement les campeurs et les scouts avant de se déclarer eux-mêmes en chômage technique jusqu'à nouvel ordre. L'Illinois, un État qui se targue d'héberger les marchés à terme de Chicago, pourrait bientôt voir les agences de notation abaisser sa note à l'un des plus bas niveaux au monde, faute de pouvoir offrir la moindre garantie de paiement à ses milliers de fournisseurs. Le Wisconsin, faute de budget, a suspendu ce week-end les services non essentiels, entre guillemets. Il faudra au Wisconsin trouver le moyen de combler un déficit $1 milliard lié aux recettes plus faibles que prévues d'une taxe sur l'essence. Le Maine et le Connecticut, malgré des marathons législatifs dans leurs assemblées locales, n'ont pas réussi non plus à boucler les budgets dans les temps. Toujours dans le portail Mediapart.fr, un entretien fort intéressant avec un opposant au régime chinois. Il s'appelle Wang Dan. C'était l'un des meneurs de la révolte étudiante de Tiananmen en 1989. Ce sont des propos qui ont été recueillis par Gilles Ten, il est journaliste chez Mediapart. Je vais vous lire quelques passages de cet entretien accordé par le dissident chinois Wang Dan. Donc c'est un ancien leader étudiant du mouvement de la place Tiananmen de Pékin en 1989, nous rappelle cet article. Il était de passage à Paris il y a quelques jours pour donner une série de conférences sur l'impact de Tiananmen sur l'évolution de la Chine. Mediapart lui a demandé pourquoi il était entré dans le mouvement de la place Tiananmen en 1989. Il répond « Je suis entré à l'université de Pékin en 1987. À l'époque, il s'agissait d'une université assez libre, donc dès mon entrée, j'ai commencé à participer à des activités politiques et à organiser des salons sur la démocratie. J'ai donc très naturellement rejoint le mouvement démocratique de 1989. Comme j'étais engagé depuis 1987, j'ai rapidement joué un rôle important dans ce mouvement. » Et donc, c'est un très long entretien qui court sur quelques pages. Je vais vous lire l'une des questions les plus importantes de cet entretien. « La Chine est aujourd'hui un État puissant et riche », indique le journaliste de Mediapart, « un État qui commence depuis quelques années à projeter sa puissance sur la scène internationale, notamment avec le nouvel axe de sa politique étrangère, les routes de la soie, comme il est appelé. Comment analysez-vous cette évolution ?» Réponse de Wang Dan, le dissident chinois. Je pense que la promotion du modèle chinois est un problème très grave. C'est à mon avis un grand défi pour l'humanité car il s'agit d'un modèle exclusivement fondé sur l'argent. Je suis riche, donc je peux écraser les droits de l'homme, la protection de l'environnement, etc., etc. Cette puissance de l'argent conduit également les autres pays à se taire. Peut-être qu'intérieurement, ces pays ne sont pas d'accord avec les actions de la Chine, mais ils n'osent pas s'y opposer ouvertement. Cette situation me rappelle beaucoup celle des années qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, l'Allemagne et le Japon étaient très agressifs. Les autres pays occidentaux ont veillé à garder de bonnes relations avec Hitler en espérant que cela permettrait d'éviter les problèmes. Je suis très critique vis-à-vis de l'attitude des pays occidentaux. Ils n'ont pas du tout tiré les leçons de l'histoire. Ils ont longtemps considéré l'URSS comme un ennemi, en partie parce qu'il s'agissait d'un système assez grossier qui entrait facilement en guerre avec ses pays voisins. Comme l'Afghanistan, par exemple. La Chine d'aujourd'hui est un système bien plus fin et bien plus abouti qui fait reposer sa puissance sur l'argent. L'Occident considère que la Chine est libre et ouverte, mais il ne voit pas que cette liberté et cette ouverture sont intimement liées au pouvoir de l'argent. L'expansion d'un tel modèle est une grave menace pour le progrès et la liberté partout dans le monde. Je pense donc que les citoyens et les sociétés civiles en Occident et ailleurs devraient intensifier la pression sur leur gouvernement pour les forcer à résister à l'expansion de ce modèle dit chinois. Donc voilà, c'est la parole de l'opposant chinois Wang Dan. Il était de passage en Europe il y a quelques jours. Et le journal Mediapart a pu l'interviewer longuement. Vous trouverez ça à l'adresse mediapart.fr. Grande-Bretagne maintenant, et c'est dans le fil de l'agence Reuters, le Repeal Bill, présenté au Parlement la semaine prochaine. Le projet de loi destiné à organiser la transposition des lois européennes dans la législation britannique sera présenté la semaine prochaine au Parlement, a annoncé mardi le porte-parole de la première ministre Theresa May. Le Repeal Bill, donc, c'est une grande loi d'abrogation qui doit à la fois supprimer le European Communities Act de 1972 et donner au Parlement britannique le pouvoir de changer les lois existantes. Pour rester sur le sujet du Royaume-Uni ou de la Grande-Bretagne, si vous préférez, Theresa May est en sursis, c'est ce que indique la journaliste Hélène Lefrançois dans cet article du portail Mediapart. Si la première ministre a obtenu de justesse la confiance des députés britanniques, son gouvernement ne tient qu'à un fil. Malgré l'accord conclu avec les Nord-Irlandais du DUP, rappelez-vous, Theresa May a conclu un accord avec un parti d'extrême droite irlandais, nord-irlandais plutôt, pour se maintenir au pouvoir. Donc, malgré cet accord, les voix de l'opposition et les divisions internes menacent de la faire tomber. Donc, Theresa May, dans une position précaire, c'est d'ailleurs le titre de cet article de Mediapart, Theresa May est en sursis. On va se déplacer maintenant dans les colonnes du journal Ouest France. Migrants, la Commission européenne présente un plan d'action pour l'Italie. Le plan prévoit notamment de nouvelles enveloppes budgétaires pour aider les autorités italiennes et libyennes à gérer l'afflux de migrants. La Commission européenne a proposé mardi un plan d'action pour soutenir l'Italie, débordée par des arrivées incessantes de migrants sur ses côtes depuis la Libye. Un plan prévoyant notamment de nouveaux financements pour aider les autorités italiennes et libyennes à maîtriser la situation. Ce plan, présenté au Parlement européen à Strasbourg, prévoit renforcer encore les capacités des autorités libyennes grâce à un projet de 46 millions d'euros élaboré conjointement avec l'Italie. Et c'est un plan qui prévoit augmenter par ailleurs l'aide à l'Italie grâce à une enveloppe supplémentaire de 35 millions d'euros prête à être immédiatement mobilisée. Retour dans le fil de l'agence Reuters, l'armée avance vers le dernier réduit de l'État islamique à Mossoul, en Irak. Les forces gouvernementales irakiennes ont légèrement ralenti leur progression mardi dans les quelques rues encore tenues par les djihadistes du groupe État islamique à Mossoul. Les combattants de Daesh, comme on appelle également l'État islamique, sont assiégés dans un rectangle de 500 mètres de long et 300 mètres de large le long du Tigre, selon une carte publiée par l'État-major irakien. La reprise de la ville, jadis un bastion de l'État islamique en Irak, n'est désormais plus qu'une question de jours, voire d'heures. Les belligérants sont à un jet de grenade les uns des autres. Toujours au Moyen-Orient, cette fois en Turquie, la marche turque de l'opposition à Erdogan. C'est le titre d'un article que l'on trouve dans le journal Le Monde. Le parti de gauche CHP défile d'Ankara à Istanbul pour mobiliser contre la dérive autocratique du régime d'Erdogan. Des centaines de voitures, de camping-cars, d'autobus, de camions, de ravitaillement s'entassent sur les bas-côtés de cette route qui mène d'Ankara à Istanbul. Et que le journaliste du Monde fait la description de cette marche, suivie par de nombreuses personnes. Une marche lancée le 15 juin par le Parti républicain du peuple, le CHP, la principale force de l'opposition. Cette marche pour la justice court sur 450 kilomètres entre Ankara et Istanbul. Et le mercure dépasse souvent les 40 degrés, signale cet article du journal Le Monde. Les protestataires, quelques milliers et parfois jusqu'à 10 000 les week-ends, ont déjà parcouru les deux tiers du chemin. Le 9 juillet, ils devraient arriver à leur objectif final, la prison Maltepe à Istanbul, où est incarcéré le député CHP Enis Bergeroglu, condamné à 25 ans de prison pour violation de secret d'État. Il s'agit, rappelle Le Monde, de la première grande manifestation depuis le coup d'État militaire raté du 15 juillet 2016 et la proclamation de l'état d'urgence qui a entraîné plus de 40 000 arrestations et le limogeage de plus de 150 000 fonctionnaires dans le pays. Tous les mouvements de contestation de rue ont été implacablement réprimés jusqu'ici, rappelle cet article du journal Le Monde, article qui est signé par le correspondant Marc Semo. Et finalement, pour clore cette revue de presse internationale, un éditorial signé par François Brousseau dans le journal Le Devoir à l'adresse ledevoir.com qui revient sur la crise qui sévit dans le golfe Persique actuellement entre des alliés, des pays qui sont généralement alliés, l'Arabie Saoudite accompagnée d'autres pays alliés, tous rassemblés contre le Qatar. Donc je vous lis quelques lignes de cet édito écrit par François Brousseau dans le journal Le Devoir pour remonter la filière du fondamentalisme musulman, de ses dérivés violents ou non violents, il est souvent utile de regarder du côté de l'Arabie Saoudite. Le lien entre le 11 septembre 2001 et les sphères du pouvoir wahhabite à Riyad, dans cette péninsule arabique qui a vu naître l'islam, est assez bien établi, même si certains documents à Washington, documents qui le prouveraient hors de tout doute, restent classifiés. On peut en dire autant des appuis saoudiens à certaines factions djihadistes en Syrie à partir de 2012, lorsque la révolte pacifique et laïque inspirée par le printemps arabe de 2011 commençait à perdre du terrain et à se dénaturer. Et l'on ne parle même pas du financement sur tous les continents, y compris le nôtre, l'Amérique du Nord, de mosquées et d'écoles musulmanes par de puissants intérêts saoudiens qui diffusent à coups de milliards le fondamentalisme comme lecture correcte, entre guillemets, de l'islam. Déjà, dès l'introduction de ce texte, François Brousseau rappelle les nombreux liens qui existent entre les événements du 11 septembre 2001 et l'Arabie Saoudite, entre, par ailleurs, le financement des terroristes qui sévissent en Syrie et l'Arabie Saoudite, et tout ça pour en venir à la crise qui oppose l'Arabie Saoudite maintenant au Qatar, un pays qui est normalement l'allié de l'Arabie Saoudite. Et l'auteur de cet édito, François Brousseau, rappelle que le Qatar n'est pas dénué de tort dans les tragiques et violentes contradictions qui ont secoué le monde arabe au cours des dernières années. Donc, il ne donne pas un blanc-seing au Qatar, qui lui aussi a eu ses dérives, ses rivalités et ses soutiens à des alliés divers au Moyen-Orient. Et pour expliquer donc cette dissension, ce conflit très aigu qui a éclaté entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, il y a différentes raisons et François Brousseau revient sur ces raisons. Il y a d'abord une bonne entente qui est jugée blasphématoire avec l'Iran, le voisin du Qatar. Donc ça, c'est le premier acte d'accusation, si vous voulez. Autrement, il y a aussi la chaîne Al Jazeera qui bénéficie d'une liberté jamais vue au Moyen-Orient et spécialement dans le monde arabe. Une chaîne donc qui est détesté par le pouvoir saoudien. Alors voilà un petit peu les causes qui sont éclairées par François Brousseau dans cet édito intitulé tout simplement « Dictat saoudien » et vous trouverez ça dans le portail du journal Le Devoir à l'adresse ledevoir.com en date du 4 juillet. Donc voilà, c'est tout pour cette revue de presse internationale des 4 et 5 juillet. Restez avec nous à l'antenne de votre radio communautaire francophone préférée. Nous allons enchaîner avec la revue de presse canadienne dans quelques instants. À tout de suite. L'info se poursuit dans cette édition des 4 et 5 juillet de l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien à l'antenne du 107.9 FM. Nous allons maintenant passer de la scène internationale à la scène nationale. Votre revue de presse canadienne débute immédiatement avec cet article aperçu dans le journal La Presse, mais aussi partout ailleurs dans les médias canadiens aujourd'hui. Des excuses et 10 millions de dollars pour Omar Khadr. Le gouvernement Trudeau offrira des excuses et une compensation d'au moins 10 millions de dollars à l'enfant soldat Omar Khadr pour les abus dont il a souffert lorsqu'il était emprisonné pour terrorisme à la prison militaire américaine de Guantanamo, ont appris le Globe and Mail et le Toronto Star. La Cour suprême du Canada avait reconnu en 2010 que les agents du Service canadien du renseignement de sécurité, le SCRS, qu'on connaît aussi sous son acronyme anglais CSIS, avaient violé les droits d'Omar Khadr lorsqu'ils l'ont interrogé à la base de Guantanamo alors que l'adolescent croyait qu'ils étaient là pour l'aider. Selon la Cour suprême du Canada, le gouvernement du Canada a violé la Charte canadienne des droits et libertés et a privé de droits fondamentaux de la justice un individu qui n'était à l'époque qu'un enfant. Ainsi, Ottawa présentera finalement des excuses officielles à Omar Khadr cette semaine et lui offrira une compensation de 10 millions de dollars, a rapporté le Globe and Mail, qui a obtenu cette information auprès d'une source au sein du gouvernement. Après avoir croupi dans la prison militaire de Guantanamo durant une décennie, poursuit cet article du journal La Presse, une décennie suivie de 3 ans d'emprisonnement au Canada, Omar Khadr a retrouvé sa liberté il y a bientôt 2 ans. Dans une poursuite civile intentée contre le gouvernement fédéral, Omar Khadr réclamait 20 millions en dommages et intérêts. Et cet article rappelle que Omar Khadr est aujourd'hui âgé de 30 ans. Il n'en avait que 15 lorsqu'il a été capturé lors d'une frappe américaine en Afghanistan en 2002. Il a été grièvement blessé à une épaule par un shrapnel et a perdu partiellement la vue. Il a été envoyé à la prison de Guantanamo où il a subi de la torture et des traitements dégradants en dépit du droit international réservé aux enfants soldats. Le plus jeune détenu à avoir séjourné à Guantanamo a fini par plaider coupable à des accusations de crimes de guerre et de soutien au terrorisme dans le cadre d'une entente à l'amiable qui lui a permis de revenir au Canada. Alors le cas de cet enfant soldat avait vraiment suscité de nombreuses protestations de la part de différents membres de la société civile et il avait des appuis nombreux aussi parmi les élus canadiens. L'ancien général canadien Roméo Dallaire l'appuyait. Omar Khadr, c'était un enfant soldat qui a été endoctriné dès le plus jeune âge par ses parents. Il a été emmené par son père dans cette région du monde, l'Afghanistan, le Pakistan, alors qu'il n'avait que 13 ans. Il a été capturé alors qu'il était mineur, 15 ans. Il a été privé de ses droits et emprisonné dans le goulag de Guantanamo, qui est une prison qui est en marge de toute forme de droit et de réglementation internationale. C'est un peu la conclusion de ce long épisode très mauvais pour la réputation internationale du Canada. Donc, on attendait une réponse du gouvernement du Canada depuis 2010, rappelle cet article du journal La Presse, puisque la Cour suprême avait reconnu en 2010 que le Service canadien du renseignement de sécurité avait violé les droits de cet enfant soldat. Donc, vous trouverez ça dans tous les médias, notamment à travers cet article d'Audrey Ruel-Manceau dans le journal La Presse. G20, Justin Trudeau amorce une mission en Europe, nous apprend la presse canadienne. Justin Trudeau amorçait en début de semaine une mission en Europe qui se terminera par la rencontre des pays du G20, un sommet qui servira de test pour sa nouvelle politique étrangère visant à tailler une place dans le monde au Canada. Le ton est donné pour le sommet de vendredi qui se déroulera à Hambourg en Allemagne, rapporte la presse canadienne. L'hôte de la rencontre, la chancelière Angela Merkel, a ouvertement critiqué les politiques du président américain Donald Trump, sans le nommer. Lors d'un discours au Parlement allemand la semaine dernière, Angela Merkel a déclaré que toute personne qui croit pouvoir régler les problèmes du monde par l'isolationnisme et le protectionnisme se trompe. Et justement, une étape de cette tournée européenne a mené Justin Trudeau en Irlande. On a un article dans la presse canadienne également à ce propos. Justin Trudeau et son homologue irlandais vantent le libre-échange. Le premier ministre Justin Trudeau et son homologue de l'Irlande, Leo Varadkar, ont fait l'éloge de l'accord de libre-échange entre le Canada et les pays de l'Union européenne mardi lors de leur conférence de presse conjointe tenue à Dublin à l'issue de leurs entretiens. On se déplace maintenant dans le portail de Radio-Canada. Enquête sur les femmes autochtones. Michelle Moreau démissionne. La directrice générale de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Michelle Moreau, a démissionné vendredi en invoquant des raisons personnelles. La nouvelle a été confirmée sur la page Facebook officielle de la commission d'enquête, ainsi que sur Twitter. « C'est avec des émotions partagées que je vous informe que j'ai démissionné de l'Enquête nationale », annonce la directrice générale. Pour des raisons personnel, j'ai choisi de retourner chez moi à Montréal auprès de ma famille. Michelle Moreau a également déclaré qu'elle souhaitait à toute l'équipe du courage pour amener cette enquête nationale là où elle doit aller afin de changer la société pour le mieux. Quelques jours plus tard, toujours dans le portail de Radio-Canada, on trouve cette manchette. L'équipe de l'enquête sur les femmes autochtones se veut rassurante malgré la vague de démissions. Après les inquiétudes soulevées par la vague de démissions au sein de l'équipe de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Michelle Audette, l'une des 5 commissaires, affirme qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Michelle Audette comprend que les départs puissent faire réagir et amener certaines préoccupations, mais assure qu'un leadership solide et efficace a été mise en place pour pallier la situation. Vendredi, l'annonce de la démission de la directrice de l'enquête nationale, Michèle Moreau, avait fait vivement réagir la présidente de Femmes autochtones du Québec, Viviane Michel. Viviane Michel s'est dite préoccupée par ce départ soudain, motivée par des raisons dites personnelles, affirmant qu'il manquait beaucoup de réponses par rapport à ses questionnements. « Nous avons besoin d'être rassurés que tout va aller pour le mieux. Nous ne savons absolument rien », a-t-elle soutenu dans un entretien accordé à Radio-Canada. Donc voilà des points d'interrogation qui persistent suite à une vague de départ dans l'équipe de l'enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées. Retour dans le fil de la presse canadienne, un article écrit par Mylène Kratt nous rappelle que 5 candidats aspirent à remplacer Thomas Mulcair au NPD. Les aspirants à la succession de Thomas Mulcair au NPD avaient jusqu'à la fin de la journée lundi pour poser leur candidature. 5 personnes se sont déjà lancées dans la course à la direction du nouveau parti démocratique, le NPD. Il reste maintenant à ces personnes 3 mois pour convaincre les militants du parti. Qui sont ces 5 candidats à la succession de Thomas Mulcair? Il s'agit de Charlie Angus, un député ontarien, Nikki Ashton, une élue du Manitoba, Guy Caron, un élu NPD du Québec, Peter Julian, un britanno-colombien qui parle très bien français, Jagmeet Singh, un député ontarien d'origine sikh qui fait beaucoup de progrès en français, comme on a pu le voir sur les médias sociaux dernièrement. Donc voilà vos 5 candidats à la succession de Thomas Mulcair. Si vous voulez connaître davantage leur parcours et lire la note biographique que leur consacre Mylène Kratt dans cet article de la presse canadienne, vous trouverez ça sous la manchette « 5 candidats aspirent à remplacer Thomas Mulcair ». Et nous allons terminer avec un éditorial paraissant dans le journal La Presse sous la plume de l'éditorialiste Paul Journet. C'est un édito qui concerne la réforme du Sénat. « Le Sénat n'est pas devenu un monstre », écrit Paul Journet. Le nouveau Sénat n'est pas un monstre qui se retourne contre son créateur, Justin Trudeau. Du moins, pas encore. Pour l'instant, la bête est polie. Quand elle montre les dents, c'est pour faire une demande assez modeste, que l'on réfléchisse bien avant de voter une loi. « Si les sénateurs dérangent », écrit Paul Journet, « c'est parce qu'on n'était pas habitué à ce qu'ils travaillent. Bien sûr, on comprend ceux qui critiquent la légitimité des sénateurs, mais pour abolir le Sénat, rappelle Journet, il faut d'abord modifier la Constitution et les provinces s'y refusent. Il faut donc choisir ce qu'on préfère, un Sénat sur les barbituriques ou un Sénat vigilant, autrement dit, un Sénat endormi ou un Sénat réveillé. » Tant qu'à avoir une deuxième chambre, écrit Paul Journet, aussi bien la rendre utile. C'est dans ce contexte que Justin Trudeau a proposé une approche audacieuse. Lorsqu'il était dans l'opposition, il a expulsé les sénateurs du caucus libéral afin de les rendre indépendants malgré eux. Et après son élection, il a réformé le mode de nomination pour que les nouveaux sénateurs soient non partisans. Pour l'instant, écrit Paul Journet, c'est une réussite. Le Sénat a très bien fait son travail de relecture dépassionnée des projets de loi. Les non-élus ont proposé des amendements au quart des projets de loi du gouvernement Trudeau. Même si c'est nettement plus que la moyenne des dernières décennies, il reste que cela ne concerne que 6 projets de loi amendés en 18 mois. Le Sénat, poursuit Journet, n'a donc pas outrepassé son rôle. D'autant que dans la majorité des cas, ces propositions d'amendement ne portaient pas sur des idées partisanes, mais plutôt sur des principes démocratiques qui devraient rallier tous les partis. À titre d'exemple, les sénateurs ont réagi lorsque le gouvernement menaçait de violer un jugement de la Cour suprême sur le suicide assisté. Ils ont réagi également lorsque le gouvernement voulait violer les compétences du Québec et précariser les consommateurs, ou encore lorsque les libéraux ont tenté de noyer un débat complexe dans un document mammouth, celui sur la Banque de l'infrastructure. Et surtout, chaque fois que la Chambre des communes a rejeté leurs propositions, les sénateurs ont fait ce qu'ils devaient faire, rien. En tant que non-élus, ils ont pris acte de leur faible légitimité en renonçant à bloquer le gouvernement. Pour l'instant, précise Paul Journet. Quelques nuages se pointent toutefois à l'horizon. Dans les prochains mois, 11 postes de sénateurs devront être pourvus. Au terme de ces nominations, les indépendants deviendront majoritaires. Or, il n'existe pas de normes claires pour savoir comment cette nouvelle cohorte doit se comporter face aux élus de la Chambre des communes. Et on sait que certains sénateurs conservateurs et libéraux, amers de leur expulsion, n'ont pas particulièrement envie que la réforme de Justin Trudeau puisse fonctionner. Donc le Sénat se comporte bien pour l'instant. La réforme qu'a voulu Justin Trudeau a porté ses fruits, mais des nuages pointent à l'horizon. C'est ce que nous écrit Paul Journet dans cet édito qui paraît dans le journal La Presse en date du 26 juin. Voilà, c'est tout pour la revue de presse canadienne. Merci d'écouter Le Débrief, votre rendez-vous info à l'antenne de votre fréquence communautaire francophone locale. Nous allons passer dans quelques instants à la rubrique Francophonie pour les 4 et 5 juillet. À tout de suite. Vous êtes toujours dans l'émission Le Débrief, Alexis Gagnon en votre compagnie. Nous allons maintenant passer aux nouvelles francophones. Première nouvelle aperçue pour vous dans le portail franjeux.com concerne les Jeux de la Francophonie qui se tiennent ce mois-ci en Afrique. Bonne nouvelle pour les Jeux de la Francophonie 2017 à Abidjan. L'événement sera diffusé du premier au dernier jour sur le réseau TV5 Monde. Un partenariat a été conclu entre le comité d'organisation des Jeux qui se tiendront du 21 au 30 juillet et le groupe audiovisuel francophone TV5 Monde. Ce partenariat prévoit la diffusion sur toutes les chaînes de TV5 Monde, des cérémonies d'ouverture et de clôture et d'une sélection d'épreuves quotidiennes. Donc voilà cette note qui paraît sur franjeux.com sous le titre TV5 partenaire d'Abidjan 2017. On va se déplacer maintenant dans les colonnes du journal Libération. Une nouvelle dont on vous parle depuis quelques jours. C'est une nouvelle qui a déjà été abordée dans le débrief. Cette fois, le sujet est repris par le quotidien Libération, la francophonie grande oubliée de la Macronie. Aucun portefeuille n'a été consacré à la francophonie dans le gouvernement d'Édouard Philippe en France, un fait qui constitue une rupture avec les us et coutumes politiques des 30 dernières années. Le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, écarte la francophonie de son option gouvernementale, écrit le journal Libération. Même pas un seul secrétaire d'État. Les défenseurs de la langue française sont perplexes. Le président Macron n'a réservé aucun portefeuille à la francophonie dans son gouvernement. Pas de secrétaire d'État, pas de ministère. Alors en campagne, le candidat d'En Marche avait pourtant fait l'éloge de cette cause au cœur de l'action gouvernementale de ses prédécesseurs. C'est donc la fin d'une tradition politique vieille de 30 ans, rapporte le journal Libération dans cet article. Depuis 1986, la francophonie était devenue une pièce maîtresse des gouvernements successifs de droite comme de gauche, se voyant dotée, suivant les différentes majorités, d'un ministère ou d'un secrétariat. En plaçant cette ambition politique dans l'agenda de l'exécutif, le premier ministre Jacques Chirac, dans les années 90, avait voulu inscrire son action dans une continuité gaulliste. Une orientation que poursuivent de manière consensuelle ses successeurs. Et cet article cherche à expliquer les raisons qui ont pu pousser Emmanuel Macron et son premier ministre Édouard Philippe à renoncer à nommer un secrétaire ou encore un ministre de la francophonie au sein du gouvernement français. Différentes pistes sont soulevées. On note par exemple que Emmanuel Macron a pu vouloir marquer sa différence et imprimer son propre style et prendre ses distances avec la francophonie qu'on a souvent appelée de façon péjorative la France-Afrique. Si la politique africaine d'Emmanuel Macron est encore illisible, peut-on lire dans cet article, il n'en demeure pas moins que son interview à Alger, dans laquelle il déclara que la colonisation fait partie de l'histoire française et constituait un crime contre l'humanité, laisse à penser que cette stratégie s'emploiera à faire tomber les tabous du contentieux colonial. Alors on remarque qu'en France, francophonie et colonialisme étaient encore associés. Emmanuel Macron tente de faire le ménage dans les appellations, peut-être dans les termes qu'on l'on emploie, ou encore dans la stratégie face aux partenaires francophones. Pour le moment, en tout cas, c'est la chaise vide. Aucun secrétaire, aucun ministre de la francophonie dans le nouveau gouvernement qui a pris le pouvoir ce printemps en France. Vous trouverez ça dans le portail de Libération. La francophonie grande oubliée de la Macronie. C'est sous la plume du journaliste Maxime Haït-Kaki. Et c'est sur cette actualité francophone internationale que se referme votre rubrique francophone des 4 et 5 juillet. Merci de rester à l'antenne. Au retour de cette pause musicale, nous allons poser un regard sur les nouvelles provinciales. À tout de suite.
Je suis en feu et ça me fait mal. Je t'y pensais, je sens brûler. Imaginez notre gamin caresser, te respirer. Je suis en feu et c'est normal. Tu m'émoustilles de tes grands yeux, de ton petit cul, de tes seins pointus, de tes jambes, de tes lèvres charnues. En feu, me comprends-tu? Tu couches à côté de moi. Juste t'entendre respirer, te provoquer en dedans de moi. Une combustion spontanée qui donne le goût de t'embrasser. Partout sans même te réveiller, remplir tes rêves de doux baisers.
L'artiste Philibert avec une pièce intitulée En feu dans l'émission Le Débrief à l'antenne du 107.9 FM. Merci d'être à l'écoute. Nous allons maintenant passer aux nouvelles provinciales. Quelques manchettes pour vous aperçues dans la presse anglophone de la province et la presse francophone par ailleurs. On va commencer avec cette nouvelle qui revient sur la crise des surdoses en Colombie-Britannique. C'est une nouvelle qui paraît dans le fil de l'agence QMI. Plus de 600 morts en 5 mois en Colombie-Britannique. Les mois se suivent et se ressemble en Colombie-Britannique où, pour un 7e mois consécutif, plus de 100 personnes sont mortes d'une surdose de drogue en mai. Les données du mois de mai sont maintenant disponibles. C'est pourquoi elles nous sont divulguées maintenant, en ce début du mois de juillet. Je poursuis la lecture de cet article paraissant dans le fil de QMI. Avec 129 décès confirmés dans la province de Colombie-Britannique, le mois de mai est le troisième plus meurtrier depuis le début de l'année 2017, après ceux d'avril, 136 morts, et janvier, 134 morts, selon des données diffusées par le bureau du coroner britanno-colombien. Avec 640 décès enregistrés en seulement 5 mois, soit une moyenne de 128 décès par mois, 2017 s'annonce pour être une nouvelle année record en Colombie-Britannique. À pareille date en 2016, 343 personnes étaient décédées d'une surdose. La drogue avait fait 967 morts au total pour l'année 2016 à l'échelle de la province de Colombie-Britannique, au rythme moyen de 80 personnes par mois. Depuis le début de l'année, poursuit cet article paraissant dans le fil de QMI, la consommation de drogue illicite a fait 32 morts par 100 000 habitants dans la province. En comparaison, 6,4 personnes par 100 000 habitants sont décédées dans un accident de voiture en 2015, tandis que 2,3 personnes pour 100 000 habitants ont été victimes d'un meurtre en 2015. Alors, ce sont là, évidemment, des données très élevées. On va dépasser sans doute le triste record de 2016. Je rappelle le titre de cet article paraissant dans le fil de l'agence QMI. Plus de 600 morts en 5 mois en Colombie-Britannique. Et nous allons aller tout de suite aux nouvelles entourant le scrutin du 9 mai, qui a connu de nombreux développements la semaine dernière. On sait que Christy Clark, la première ministre sortante, a été défaite en chambre lors d'un vote de confiance. Nous aurons prochainement un gouvernement mené par une coopération entre le NPD de la Colombie-Britannique et le Parti vert de la Colombie-Britannique, entre les chefs John Horgan et Andrew Weaver. Alors, aujourd'hui, mardi 4 juillet, nous avons des nouvelles un peu partout dans les médias qui nous indiquent que le NPD va annoncer la composition de son cabinet très bientôt. Au moment d'enregistrer cette émission, en début d'après-midi, le 4 juillet, nous n'avons pas ces informations. Alors, nous consacrerons plutôt demain un segment complet à la formation d'un cabinet de ministres autour du premier ministre John Horgan suite au développement de la semaine dernière. Et il y a bien sûr de nombreux papiers sur la situation politique en Colombie-Britannique dans la presse anglophone de la province et dans la presse nationale. Par ailleurs, je vous signale une chronique écrite par le columniste Kelly McParland dans le National Post. C'est très rare qu'on cite le National Post ici dans cette émission. C'est un papier peu élogieux sur Christy Clark, signé par Kelly McParland. Je vous donne le titre. Christy Clark is the Terminator of BC politics. She'll be back. Alors, le chroniqueur cite le personnage célèbre des films Terminator, incarné par Arnold Schwarzenegger, qui avait toujours cette phrase « I'll be back ». Et c'est le cas de Christy Clark. Selon ce chroniqueur du National Post, elle sera de retour. Elle est très pugnace. Elle est très déterminée. Le chroniqueur lui reconnaît une force vitale remarquable et sans égale à l'échelle canadienne, tant sur les scènes provinciales que sur la scène nationale. Et le chroniqueur revient sur les différentes manœuvres pratiques peu cachères, si vous voulez, auxquelles s'est prêtée la première ministre au cours des dernières semaines. On sait que le scrutin a eu lieu le 9 mai dernier, ça fait plus de 7 semaines, et Christy Clark s'est accrochée au pouvoir de toutes les manières possibles. Un récapitulatif, si vous voulez, dans cette chronique de Kelly McParland dans le National Post. Et nous allons passer maintenant à la météo des prochains jours pour terminer cette émission du 4 et du 5 juillet. On va se transporter tout de suite sur le portail d'Environnement Canada à l'adresse météo.gc.ca. Nous avons eu une superbe journée à Victoria, encore une fois aujourd'hui, où nous avions un peu plus de 20 degrés en début d'après-midi. Mercredi 5 juillet, ce sera ensoleillé avec un maximum de 25 degrés, une véritable journée estivale pour la grande région de Victoria. Et la séquence va se poursuivre ainsi au cours des prochains jours, jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9. Ça n'est que du soleil, un soleil sans nuages, nous indique Environnement Canada sur le portail météo.gc.ca, avec des maximums oscillant entre 26 et 24 degrés sur cette durée. Donc voilà, ensoleillé, aucun nuage au cours des prochains jours. C'est ce que nous annonce Environnement Canada. Une vraie séquence estivale pour les prochains jours. Si vous voulez tous les détails, rendez-vous à l'adresse météo.gc.ca. Voilà, c'est tout pour cette édition du débrief pour les 4 et 5 juillet. Merci de l'avoir suivi. C'est Alexis Gagnon au micro. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À très bientôt. Café, café, café noir, café, café, café clair, café, café, café noir, café, café, café. J'aime pour le café, le café, le café. Je me lève tôt, je prends un café, je prends un café, je prends un café. Tu l'es chaud dans mon café, 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 café. Au resto, je prends un café, café, je prends un café. Appelle-moi que mon cappuccino. Je prends mon café avec mon verre de vino comme un prof de philo. Je commande des grains au kilo, puis je les range dans mon silo. Je sur le Coca-Cola. Je prends des gros refills au Cora. Après, je sors à la Maradona, puis je fais des marathons à Donnacona. Je prends des nuages de lait, un peu de sucre, yeah, c'est comme ça que je l'aime. Pas le choix, je prends un Tim Hortons, puis je saute high comme Michael Jordan. Passe-moi la balle, ton truc c'est la balle. Je redeviens tribal, puis je chante plus mon visage. Pendant que je prononce plus mes syllabes. Mon Dieu, c'est formidable, je suis comme sur un mirage. Sur le bateau de Sinbad. J'aime pour le café, le café, le café. Je me lève tôt, je prends un café, je prends un café, je prends un café.
café.
Il est chaud dans mon café.
Dans mon café, dans mon café.
Au resto, je prends un café.
Café, je prends un café,
café, café, café noir, café, 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 café noir, café, 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 café noir, café, 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 café. Ok, c'est bon, j'en ai assez, mais je pense que maintenant c'est prêt.
Chaque jour, quand je me lève, je pars ma cafetière comme les gens célèbrent. La température de l'eau s'élève. Quand j'ai pas mon café, 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 yo, je m'énerve. Une crème. Deux sucres dans le métro ou dans l'autobus. Dans mon backpack, puis ma carte au puce. Et une nouvelle tasse à café que je viens d'acheter au marché aux puces. Yeah, Americano S. Presso dans la bouche, demande un double à l'hôtesse. Mentalité zen, j'évite le gros stress. Y'a vraiment beaucoup trop de saveurs qu'il faut que je teste. Noisette vanille, café pour tes boys, pour ta belle famille. Yeah, je me spécialise. Je prends un café avant de partir et dès que j'arrive.
Café, café, café noir. Café, café, café crème. Café, café, café noir. Café, café, café crème. Café, café, café noir. Café, café, café crème. Ok, c'est bon, j'en ai assez. Là, je pense que maintenant c'est
le temps. J'aime trop le café, trop le café.
Je me lève tôt, je prends un café.
Je prends un café, je prends un café.
Du lait chaud dans mon café.
Dans mon café, dans mon café.
Au resto, je prends un café.
Je prends un café, je prends un café.
J'aime trop le café.
Café, café.
Je me lève tôt, je prends un café.
Je prends un café, je prends un café.
Du lait chaud dans mon café.
Dans mon café, dans mon café.
Au resto, je prends un café.
Bonjour, je m'appelle David, vous êtes à l'antenne de CILS-FM, votre seule radio communautaire francophone en Colombie-Britannique.
Bonjour, ici Agnès Lévig, auteure du roman De tes nouvelles. Cette semaine, je suis l'invitée d'Amélie Boivin-Handfield à Samedi de lire. Soyez des nôtres, on vous attend.
Samedi de lire, ce samedi 17h et en rediffusion dimanche 11h.
Des mots maladroits qui sortent de travers. Dès que je pense à toi, j'entends mon cœur qui bat plus fort que le tonnerre.
Quand tu passes près de moi, je me pince 10 fois. Je regarde par terre et puis quand tu t'en vas, tout ce que j'ai en moi se brise au corps du verre.
Y a mon cœur qui se cherche un endroit, quelque part sur la terre, quelque part avec toi. Plus ça va, plus j'espère qu'un beau jour tu auras de l'amour à l'endroit de mon cœur.
Je ne sais plus quoi faire. Et si je t'aperçois, la peur que tu me vois me change en courant d'air.
Y a mon cœur à l'envers qui se cherche à l'endroit, quelque part sur la terre, quelque part avec toi. Plus ça va, plus j'espère qu'un beau jour tu auras de l'amour à l'endroit de mon cœur à l'envers, à l'endroit de mon cœur à l'envers.
Et si demain j'osais t'avouer le secret de mon cœur à l'envers,
et si dans tes yeux verts soudain je devinais que j'aurais pu me taire. Oh oh oh.
D'espérer, ça prend du temps pour comprendre que Est-ce que je peux bien attendre? Je vis de rêves, je vis d'illusions, tout seul dans ma passion. Je veux de la lumière pour y voir plus clair. Reste là, donne pas de signe, à quoi bon espérer? Bouge pas, reste assise devant du noir. Je ne veux plus de nouvelles, je ne veux plus rien, je ne vois plus d'étincelles. Je connais les fantômes, de toi ne reste qu'une ombre. J'avais envie d'un trop plein de soleil qui brûlerait notre ciel. Maintenant le vent a tourné, les temps ont bien changé. La tête bien haute, le corps bien droit, le regard libre de toi. Je veux de la lumière pour y voir plus clair. Reste là, donne pas de signe, à quoi bon espérer? Bouge pas, reste assise devant du noir.
Faire un bout de chemin avec toi. Mais chaque jour c'est le même refrain. Prends ma main, vole en première classe à bord d'un paper plane.
J'ai envie de party, dis bye à ton patron, partons faire tes valises. Tropical, tropical, oublie pas ton monokini et rejoins-moi dans la Maserati. Tout inclus pis c'est sur le bras. C'est moi qui refais ça. Tu peux pas partir avec moi si t'es pas prête à te dire et c'est top.
Ferme les yeux, imagine. Parce qu'il y a trop de choses qu'on n'a pas vues dans ce monde. Qu'on verra jamais et qu'on verra jamais. Parce qu'il y a trop de choses qu'on n'a pas vues dans ce monde. Et qu'on verra jamais. Qu'on verra jamais.
Pour deux, mais on parle de Plattsburgh. Faut qu'on barque sur ma motocross bleue. J'ai des nouveaux pneus, lunettes, fumer ses yeux. Faut que j'ai de l'air de Robocop 2. Avec podcast à mes cheveux d'en face. Bien non alcoolisé sur le dash. On arrive à la plage, on est les plus cool de la paille. En plus, y'a un DJ sur place.
Ferme les yeux, imagine. Parce qu'il y a trop de choses qu'on n'a pas vues dans ce monde. Qu'on verra jamais. Et qu'on verra jamais. À moins d'aller faire un tour à 100 000 à la ronde. Ferme les yeux, imagine. Parce qu'il y a trop de choses qu'on n'a pas vues dans ce monde. Qu'on verra jamais. Et qu'on verra jamais. Et qu'on verra jamais. Et qu'on verra jamais. Et qu'on verra jamais. Qu'on verra jamais. Qu'on verra jamais.
depuis l'ennui. Et tout le temps qu'on passe à fuir pour rien. Pour partir, partir loin. Pour échapper l'ennui. Et tout le temps qu'on passe à fuir pour rien.
Je suis Ryan Price et vous écoutez 107.9 FM.
Vous écoutez CILS FM 107.9.
Allô la planète avec Eric Lange.
Allô la planète numéro 175, monsieur, dame, nous aurons peut-être un petit salut de Macha qui est au Canada, de Laurence qui est quelque part dans le monde, je crois qu'ils sont en Espagne, ils étaient au Canary la dernière fois, Stéphane sera avec nous aussi, Stéphane qui vit avec son âne sur les routes de France et d'Europe, Laurent notre blogueur préféré pour revenir sur son voyage au Caire et des nouvelles de Brewen.
Allô la planète avec Chapka.
Allô Brewen, le Human World Trip, bienvenue mon cher ami dans l'émission, où es-tu ?
Salut Eric, ça va ? Oui. Je suis en Argentine, je suis arrivé le 11 mai depuis la Bolivie en Argentine.
D'accord, et tes impressions sur l'Argentine ?
Ah, c'est un pays qui ressemble un peu à la France, on va dire. C'est un pays qui est un peu plus européen que le reste d'Amérique du Sud.
Ouais.
C'est un pays où c'est un mélange de cultures aussi, c'est un métissage. Il y a une grosse différence entre la Bolivie et l'Argentine, par exemple. C'est une culture un peu plus indigène, on va dire, en Bolivie.
Ouais.
L'Argentine, c'est un pays qui est plus cher que le reste.
Ah ouais?
Les gens sont un peu dans la vie européenne, quoi. Le travail, métro, boulot, dodo, on va dire. Moi, je suis pas très loin de la capitale, en plus, de Buenos Aires, maintenant, donc je me rends compte que la vie est un peu plus mécanisée, disons, on va dire.
Ah ouais. Pourtant, il paraît que, comme ils vivent dans une sorte d'état de crise permanent, une crise économique, les Argentins, ils ont développé un art de vivre au jour le jour. T'as ressenti ça?
Un petit peu, ouais. Disons que la crise, elle est financière, mais elle est pas pour tout le monde, quoi. Il y a des gens qui ont quand même des sous, donc c'est... Ça attaque pas tout le monde. L'inflation, selon les chiffres du gouvernement, est à 25%, 30%, mais les...